8h18, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Et votre invité Sonia Mabrouk, c'est le professeur Philippe Parola, chef du service des maladies infectieuses de l'IHU à Marseille.
Bonjour professeur Parola.
Bonjour.
Et bienvenue ce matin sur Europe 1. Avant d'entamer notre entretien, professeur, je voulais tout simplement vous demander, est-ce qu'il est possible de mener cet entretien avec raison, sans passion, tout en parlant de l'hydroxychloroquine? Est-ce que c'est possible?
Écoutez, c'est possible. Moi, je ne parle que de ce que je connais, que de ce que j'ai vu et que de l'expérience que j'ai eue ici à l'IHU de Marseille, avec notamment le soin de plus de 4500 patients qui ont été testés, isolés chez eux ou à l'hôpital et traités. Donc ça, je peux en parler et je peux parler également de la littérature internationale et notamment de ces publications catastrophiques. Donc là, c'est pas de la passion, c'est du soin et puis de l'analyse d'articles internationaux qui est mon métier.
Eh bien, parlons-en. Une fois posé ce décor, professeur, après de vives critiques, la revue scientifique The Lancet a corrigé l'étude sur l'hydroxychloroquine. Les auteurs ont reconnu une erreur dans les données, mais pas sur les conclusions conduisant, selon eux, à la dangerosité de la molécule. Est-ce que vous contestez toujours l'étude et ses données?
Non, mais cette étude est une farce et c'est notamment, nous on voit ça, on appelle ça la goutte d'eau qui fait déborder le vase parce qu'elle survient à la suite d'autres publications qui étaient totalement douteuses et totalement à charge contre le traitement par hydroxychloroquine avec ou sans azithromycine d'ailleurs, l'antibiotique. Au mois de mai, le British Medical Journal avait demandé à des auteurs chinois de supprimer tout ce qui était favorable à l'hydroxychloroquine. Une étude française également, toujours dans le British Medical Journal, l'équipe du professeur Lescure à Bichat, avec de faibles effectifs, n'avait pas analysé le groupe hydroxychloroquine-azithromycine qui pourtant avait soigné les patients sans aucun mort ni aucun passage réanimation. Et en fait, le New England Journal of Medicine, qui est un des plus grands journaux du monde, où on retrouve d'ailleurs le professeur Lescure, a fait une publication qui était carrément payée par la firme Gilead. Donc cette étude du Lancet, c'est une de plus, mais là on est quand même dans le meilleur journal du monde, et donc c'est assez catastrophique.
Avec deux auteurs, je vous le disais, professeur, qui reconnaissent la publication d'un tableau de données redressé en lieu et place de données brutes. C'est leur seul tort si on les entend.
Non, je crois pas. Enfin, il faut regarder cette étude, qui est d'ailleurs écrite par un chirurgien cardiaque. C'est une analyse de Big Data. Donc le premier auteur est un chirurgien, le deuxième auteur est un directeur de société d'analyse de Big Data. Alors il faudra vérifier ça, mais là on est dans la farce totale, dont la directrice serait, on va dire, une actrice spécialisée. Vous vérifierez cela, cette information qui vient des États-Unis, mais là on rêve. En pratique, sur cet article, qui peut être attractif, parce que 6 continents, des centaines d'hôpitaux, près de 100 000 patients, en pratique, il y a aucune donnée sur les hôpitaux, les médecins, le recueil de données. On ne sait pas comment les dossiers ont été sélectionnés.
C'est ce qu'il faut dire. C'est ce qui vous fait dire, professeur Parola, pour reprendre le terme utilisé par le professeur Aout, qu'elle est entre guillemets foireuse.
Non mais c'est une farce, mais ça saute aux yeux, il n'y a aucune information, des statistiques fantaisistes, il y a des choses impossibles, on compare des groupes qui ne sont pas comparables. Les Australiens se sont manifestés les premiers, il y avait plus de morts en Australie dans 5 hôpitaux dans cette étude que dans toute l'Australie. Il suffit d'aller sur Internet, des tas de scientifiques à travers le monde, et nous avons co-signé avec d'autres experts internationaux une lettre qui mettait en évidence tout le fake de cette étude. C'est énorme.
Professeur Parola, vous parlez de la qualité des scientifiques, et je note là depuis tout à l'heure que vous m'avez parlé des auteurs de cette étude. Vous avez dit qu'il y avait un chirurgien cardiaque et un directeur de société de gestion de Big Data. Pourquoi est-ce important de les situer?
Ben écoutez, au bout d'un moment, il faut savoir qui écrit et qui explique les choses, qui analyse.
Pour quelle raison? Il y a un conflit d'intérêts?
Alors pour ces auteurs-là, je n'en sais rien. Ce qui est clair, c'est qu'il y a, on verra bien le rôle de l'industrie pharmaceutique et des conflits d'intérêts dans tout ce débat contre l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Moi, je suis resté, combien de fois j'ai été troublé par l'article sur le site internet de Marianne du 18 mai qui exposait les conflits d'intérêts majeurs, c'est-à-dire l'argent que l'on reçoit des firmes, de l'industrie pharmaceutique. C'est de l'argent légal, mais attention, il faut le signaler. Le signaler quand vous conseillez un ministre, le signaler quand vous écrivez un article scientifique.
Mais allons jusqu'au bout de votre raisonnement, professeur Parola. Ça voudrait dire que les auteurs, ou en tout cas certains scientifiques qui ont publié sur l'hydroxychloroquine, ont reçu de l'argent, légalement de l'argent de l'industrie pharmaceutique, cet argent qui aurait pu influencer leur jugement. C'est cela que vous dénoncez ?
C'est légal, attention, hein, je le dénonce pas, c'est légal. Les médecins, d'ailleurs pas que les médecins, ont le droit de recevoir de l'argent de l'industrie pharmaceutique. Mais ils doivent le déclarer, doivent le déclarer à la population quand ils vont appartenir à un conseil scientifique, quand ils vont conseiller un ministre, parce que cela peut influencer leur choix et leurs décisions de façon consciente ou inconsciente. Je ne parle pas de malhonnêteté, simplement quand on reçoit de l'argent, il faut le dire.
Mais en disant cela, il y a une tâche quelque part sur ces auteurs en évoquant ce traçage d'argent. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'employer, professeur Parola, le même procédé que les détracteurs du professeur Raoult, à savoir décrédibiliser l'auteur, la personne, la source qui émet une étude ou un protocole ?
Non, là encore, pour le Lancet, c'est très technique. Hein. Tout le monde à travers le monde, n'importe quel scientifique, n'importe lequel de mes étudiants a vu que cette étude était fake. Vos
étudiants l'ont tout de suite remarqué.
C'est évident. Les groupes sont pas comparables. On nous raconte qu'il y a autant de fumeurs en Europe qu'en Afrique et qu'en Asie. C'est pas possible. Ça saute aux yeux. On peut se demander pourquoi les autorités ne l'ont pas vu tout de suite, d'ailleurs. Mais ça saute aux yeux.
Pardonnez-moi, ça veut dire que ça a sauté aux yeux d'un de vos étudiants et pas au ministre de la Santé, Olivier Véran?
Écoutez, je ne sais pas s'il l'a lu très clairement. Je pense pas d'ailleurs, parce que c'est pas possible. Ça se voit beaucoup. Les ministres ont beaucoup de travail. Ce qui est plus inquiétant, c'est que je pense qu'il a un entourage, il a un cabinet qui normalement doit décrypter la littérature scientifique avant de prendre une décision, soit sur le coup de l'émotion, soit avec d'autres paramètres que je ne maîtrise pas. Mais ça fait deux fois. Il y a quelques semaines, le ministre avait également brandi à l'Assemblée une étude, là aussi, qui était tout à fait étonnante, avec des malades très très sévères aux États-Unis, où bien sûr rien ne marchait. C'était flagrant. Donc là, je ne sais pas. Je peux pas vous répondre. Le ministre pourra s'expliquer si c'est lui, si c'est son entourage. En tout cas, je pense qu'il faut être très prudent dans les articles scientifiques. Je l'ai déjà dit, la presse scientifique est devenue une presse d'opinion. Il faut faire attention à ça. Les articles, il faut les lire. Il faut pas lire que les titres. Il faut pas lire que le résumé. Il faut lire le contenu. Et surtout, prendre le temps avant de prendre des décisions, notamment quand on prend des décisions pour le pays.
Justement, professeur Parola, vous connaissez la citation « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », disait Rabelais il y a déjà 500 ans. Et aujourd'hui, la science avec autant de passion, de croyance, c'est encore de la science ?
Écoutez, j'en sais rien. Moi, je crois qu'il faut être pragmatique, il faut comprendre, il faut regarder. Nous, on analyse la littérature, on a choisi ce traitement à Marseille, qui s'est d'ailleurs mondialisé. On parle beaucoup de Marseille, mais en France, à l'étranger, dans la moitié du monde, les gens ont été traités très tôt. Et ça, c'est une clé, par l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Et je ne sais pas si ce débat, notamment en France, contre l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, était fait pour cacher quelque chose, cacher les vraies questions. Attention, je ne tombe pas dans les théories du complot. Moi, j'ai simplement constaté à Marseille...
On est en train de les frôler quand même, hein.
Non, pas vraiment. Écoutez, nous, on a soigné 4500 patients à Marseille en les soignant très tôt. On a la plus faible mortalité du pays. Aucun de mort chez les personnes jeunes. Et on reviendra, vous verrez, dans les prochaines semaines sur les éléments. On verra si c'était des erreurs ou des fautes. Mais vous savez, on a dit aux gens, notamment en France, restez chez vous, attendez que ça s'aggrave pour appeler le SAMU. Et là, on s'aperçoit... En observant nos patients, là encore une fois, c'est pas de la passion, hein. En regardant nos patients, on s'aperçoit que des patients qui avaient l'air bien, en fait, manquaient d'oxygène, avaient un risque d'embolie pulmonaire, et quand ils basculaient à la maison, quand ça s'aggravait, c'était trop tard. Donc il y a toute une stratégie qui a été faite. Restez chez vous, surtout on ne teste pas, attendez que ça s'aggrave. On verra bien si ça, c'était une erreur. Nous, ce qu'on voit, c'est quand on traite tôt, on évite que des patients meurent.
Oui.
Bien sûr, on a des patients qui sont en bonne santé. Enfin, on a une mortalité la plus faible du pays. Après, on verra si c'était bien, si c'était pas bien.
On verra. C'est ce que vous dites, professeur Parola. Ce qui vous intéresse, je suppose, c'est la vérité scientifique. J'apporte juste une nuance. Vous avez raison, vous avez dit qu'une grande partie des pays utilisent l'hydroxychloroquine, elle divise également, d'autres la suspendent, l'Italie, l'Égypte et précédemment la Suède, mais le monde est divisé. Je voudrais savoir, professeur Parola, plus personnellement, qu'est-ce que vous avez appris sur cette maladie, sur ce virus auprès du professeur Raoult, dont vous êtes un proche évidemment?
Écoutez, nous, c'était une nouvelle maladie, donc on a appris cette nouvelle maladie en voyant les patients, tout simplement, hein. C'est-à-dire les sujets jeunes qui perdaient l'odorat, qui perdaient le goût, les patients qui manquaient d'oxygène alors qu'ils avaient l'air bien, le risque embolique, les atteintes du scanner alors que là aussi les patients semblaient en bon état général, une atteinte brutale qui fait qu'on appelle les urgences, on va aux urgences au dernier moment et là les services sont saturés, mais ça m'a appris aussi à réfléchir sur le pays, c'est-à-dire pourquoi Pas assez de masques? Pourquoi pas assez de blouses? Pourquoi pas assez de gants? Avez-vous interrogé à un moment donné les autorités sur pourquoi n'est-on pas capable dans ce pays de faire des tests à tous les malades comme nous l'avons fait à Marseille? Qu'est-ce que ça coûte? Est-ce qu'il n'y a pas assez de machines? Est-ce qu'il n'y a pas assez de réactifs? Est-ce que c'est une stratégie? Ou est-ce que c'est un manque de moyens?
Beaucoup d'interrogations.
Donc si vous voulez, toutes
encore,
ces questions-là, finalement, alors après que d'autres pays réagissent sur le coup de l'émotion, heureusement en France nous ne sommes pas les seuls. J'aimerais qu'il y en ait, que ça soit pas le cas pour mon propre pays. Enfin, je vous tranquillise, beaucoup d'États aux États-Unis, énormément de pays d'Afrique. J'ai beaucoup discuté avec des ministres ou des présidents d'universités africains qui m'ont appelé en me disant « Mais qu'est-ce qui se passe chez vous ? Vous prenez le Maroc, ils ont une très faible mortalité. Le Gabon,
Parola,
le Cameroun, l'Algérie, le Sénégal. »
Cela divise le monde, mais c'est la preuve aussi ce matin avec vous qu'on peut en parler avec calme, raison, je ne sais pas. Chacun se fait son avis, c'était important de vous écouter. Europe 1 donne la parole, évidemment, aux différentes sources et aux différents partis. Merci, professeur Parola.
Merci.